Nous donnons la parole à Paul et nous demandons au Seigneur de le bénir pour le message. Nous aurons la louange après la Sainte Cène.
J'accumule les difficultés. La première, c'est que c'est un culte parrain-enfant. Heureusement, il y en a deux. Trois, oui. L'un s'appelle Gap et l'autre, tu t'appelles comment? Mickey. Donald. Voilà. Alors, c'est pour vous que je vais parler. Puis, si les adultes, ceux qui n'ont pas trop sommeil veulent écouter, ils écoutent. Mais c'est pour vous. Tu as quel âge?
9 ans.
Tu es timide? Non, ça va. Tu penses que tu pourrais m'aider, porter le micro? Parce que la deuxième difficulté, c'est que je suis venu pour parler à des enfants, et j'ai des objets, j'ai les mains occupées, et vous n'avez même pas, dans une église comme celle-ci, un micro portatif qu'on met là, comme ça, autour de la tête. Et on a les mains libres. La sono dans une église, c'est le dernier lieu où il faut économiser, le dernier. Bon. Alors, je vais commencer avec mes objets. Il paraît qu'on ne peut pas parler sans micro, hein, on ne comprend pas là au fond. Alors, ce que j'ai dans le dos, c'est un chino au pays d'en haut. Du pays d'en haut, dans les montagnes, c'est un koé. Et dans le koé, les vieux parmi nous savent peut-être encore ce que c'est. Oui, toi, Armand. Hein? La molette. C'est une molette. Tu sais à quoi ça sert? Non, mais tout à l'heure, tu sauras. Alors, je repose mon micro. Un membre de votre communauté, que je connais depuis longtemps, a écrit un article un jour, cette année, en disant que les vieux comme moi, j'ai quel âge? Ah, comme ça.
84.
Alors les vieux comme moi, de 84 moins 13 ans, hein, moins 13, et qui ont été des bavards et qui ont beaucoup parlé dans les églises, devraient parler dorénavant aux enfants ou au troisième âge. C'est à peu près ça la configuration de l'église ce matin. Alors je vais parler aux enfants, quelque chose que les enfants puissent comprendre. J'ai une chose importante à vous dire, et puis une autre très importante. Alors j'enlève mon chapeau. Je voulais vous saluer, c'est pour ça que j'ai un chapeau. Puis ma scène se passe en été. Et notre ami dont je vais vous parler, il s'est levé tôt à 4 heures le matin pour aller faucher, avant qu'il fasse trop chaud. Et puis à 10 heures, il rentre. Ah bon! Il n'y a pas tellement de fauchés d'ailleurs parmi nous. La chose importante, mais pas très importante, c'est celle-ci. Nous avions dans notre village un vieux qui fauchait avec nous. Moi, j'étais un très bon faucheur. J'ai oublié de vous saluer, je vous salue. Un très bon faucheur. Et puis, à bout d'un moment qu'il avait fauché, il s'arrêtait, il prenait. Oh, je vois, prenez le moment. Il y a un filard, et sur le filard, c'est marqué PD, Paul Dubuis. Mais c'est pas moi, c'est mon père. Voilà, tu la portes, pose par terre.
Pose-la.
Pose-la, voilà. C'est pour le décor, c'est tout. Magnifique. Je l'ai trouvé à la décharge. Alors ce faucheur, ce vieux, il savait pas entretenir sa faux. Et quand il fauchait, il fauchait, il s'arrêtait, il voulait aiguiser sa faux. Mais elle coupait jamais. Elle coupait pas. Et quand il s'arrêtait, il disait, il regardait derrière lui, devant, il disait, où en étais-je? Il n'y avait pas de différence entre où il devait faucher et où il avait fauché. Elle coupait pas. Et pour la bien faire couper, la faux, il faut un chapelet. Je te montre une petite démonstration. Tu sais ce que ça veut dire un chapelet? Non. Alors, hier soir, j'ai pris le plot que j'ai vu toute ma vie, devant la maison, sous le balcon. C'est là que mon père un chapelet. On appelle une enchape, c'est une enclume. Et le matin à 6 heures, oh c'était beau, j'entends encore. À 6 heures, j'entendais. Et ça me réveillait. Et ça voulait dire, t'as encore 3/4 d'heure pour dormir. Alors... Et puis à l'autre bout du village, chez le Louis-Henchot-Martin, on entendait comme les coqs qui se répondent. Et puis il y avait les 1000 burniers au corps. Qui le chapelet aussi. Voilà, c'est comme ça que je me réveillais. J'ai un souvenir merveilleux. Mais là-dessus, alors là, ça va venir compliqué. Oui, on peut poser la peau, la main. Il a peur. Alors ça, c'est une chape. C'est pour... Oui, dans ma bouche. C'est une échappe, c'est juste pour amincir le bord de la faux. Ça dure comme ça 20 minutes. Puis s'il fait très chaud dehors, puis qu'il y a des tavins qui nous piquent, on fait durer 35 minutes à l'ombre, à la forêt, pendant que les autres transpirent au soleil. Hein? Si la faux est bien aiguisée, on met son ongle contre la lame. Et si elle est fine, elle se plie. Ça veut dire qu'elle est bien aiguisée. Alors, ce que je veux vous dire, ma leçon importante, c'est que vous, alors à partir de là, bien aiguisée, la faux, ça rasait. C'est un rasoir dans le foin. Hein? On faisait des beaux andins. Moi, j'ai fauché un jour entier. C'était de la salade. C'était formidable. C'est un plaisir de faucher comme ça. Mais si c'est mal préparé, si c'est mal aiguisé, on ne fait rien du tout. Et vous, vous allez à l'école. Vous apprenez des choses. Vous écoutez ce qu'on vous dit, vos parents, etc. Vous êtes en train de préparer vos outils. Et si vous les préparez bien maintenant, déjà tout petit, quand vous aurez 21 ou 84 ans, vous verrez, vous aurez des outils, vous saurez travailler et puis vous réussirez dans votre vie. Mais faut pas dire ça va bien comme ça, hein? D'accord? Voilà pour ma leçon. Tu peux la revisser si tu veux. Pendant que je continue là. Hein? Mais tu ne te coupes pas les doigts. Hein? Et puis vous ne direz pas où en étais-je. Il y a des gens à 20 ans, à 18 ans, à 16 ans, des jeunes, ils ne savent pas où ils en sont. Ils ne savent pas où ils vont. Oh, c'est des... Oui, c'est à l'envers, je crois. Hein? Tiens, merci. Alors maintenant, je vais vous dire une chose importante. Une histoire vraie, c'est compliqué, non? Comme ça, madame. Vous entraînez un petit peu, c'est pas tout seul. Ici, non, tu vises du bon côté. Alors. Ah oui, monsieur. Alors mon histoire vraie, je vous la raconte comme je la vois. C'est une histoire vraie parce qu'elle est dans la Bible. Dans la Bible. Elle tient un verset. C'est l'histoire d'un homme et qui s'appelle Simon. Parmi les aînés, qui ont bien aiguisé leur outil biblique, vous savez de quelle histoire je vais parler ? Qui d'entre vous sait ce dont je vais parler ? D'un Simon, dont il est parlé dans un verset, dont j'imagine qu'il a des outils. Alors je vais vous aider. C'est un certain Simon qui rentre des champs. Viens cette fois-ci. Mon pauvre Bernard, je n'ai pas arrivé à une demi-heure. Il rentre des champs. Et qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est tout faux. Jésus l'a rien demandé. Ah, oh. Ah, pas une chose. Simon, à 10h du matin, il a fauché. Oui, 4h, ça va. Il rentre des champs, tout content, il a fauché son pré, sa... Ça va, ça passe. Sa foi rasée, il est content, etc. C'est 10h du matin, sa femme va lui préparer un petit café, un bon petit dîner, hein, puis il est au frais chez lui, puis j'ai envie de faire la sieste. Bon. Alors il rentre. J'ai un autre problème, c'est mes papiers. Je la connais. Et puis surtout, demain c'est le sabbat. Comme si c'est le dimanche pour eux. Et Simon est un homme qui ne manquerait pas le sabbat une fois. Il a raison, il ne faut pas manquer le sabbat. Comme il ne faut pas manquer le culte. Moi, si je vais au culte aujourd'hui, des fois j'en ai envie, des fois moins pas envie, mais c'est Dieu qui me convoque. Dieu me dit, je t'atteins avec les autres pour faire des louanges. Vous me voyez, moi, petit Paul Dubu, dire « Seigneur, non, j'ai sommeil. » Quand Dieu lui-même me convoque, il y a des gens qui sont comme ça. J'étais convoqué à un anniversaire le samedi soir, là, ils ont été. Mais le dimanche matin, quand Dieu les convoque, sommeil. Bon, c'est un autre sujet. Alors, il rentre, il ira au sabbat, il écoutera la parole de Dieu, il chantera des psaumes. Hein. Moi, je l'imagine, il est un petit peu moderne. Hein. Il va chanter... Je ne sais pas si on connaissait le rap. Hein. Là, l'Égypte, il chantait « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Puis quand il est tout seul, il rentre des champs. Hein. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. Il fait du rap. Mais il ne sait pas, que c'est du rap. Alors il rentre. Là-bas, derrière la dame, dans tes deux ordres, tout à coup, sur son chemin, il voit il y a des gens là-bas, il y a de la poussière. Ça bouge, il y a... Ouh, dit Simon, moi je ne veux pas mêler cette histoire. Et puis ça se rapproche, il y a des gens qui crient, il y a des cailloux qui volent. Mais il y a une émeute. Et puis on entend... À mort ! À mort ! Simon est dit, à la maison, moi c'est le petit café... Hein, mon petit dîner, ma sieste avec ma petite femme. Et puis tout à coup, là tu me tiens, puis derrière moi, un bras de fer qui s'abat sur son épaule, qui retourne, et laissez-moi, je me mets de rien, moi, je rentre chez moi. Arrête, le juif. C'est un soldat romain. un soldat romain qui l'empoigne à l'épaule, qui retourne et lui dit « Prends la croix de ce bonhomme-là. » Il y avait quelqu'un qui portait une croix, et puis qui était fatigué, puis qui ne pouvait plus avancer. Alors Simon, qui est un paysan solide comme moi, enfin plus, hein, on lui met la croix de Jésus. Là, ça vient d'un jour, je crois. Hein. Voilà. On lui met la croix dessus. Et puis c'est Simon qui doit porter la croix. Mais dit Simon, mais j'ai rien fait, laissez-moi aller, moi je suis pas brigand, hein. Je suis un honnête homme. Avance, arrête de discuter. Et voilà Simon qui marche, mais quand même, c'est lasse. Hein. Moi je rentre chez moi, je ne m'entraîne à personne. Bon, celui-là là devant, on va mener-le à la croix, c'est Barabbas. Un criminel. Alors lui, hein, ouh, il a ramassé quelque chose, ce criminel. Il a dû recevoir le fouet avec les petites boules de plomb. Il a la peau du dos complètement décollée. Et il gémit, et il avance comme ça. Puis quelqu'un. Mais lui, il a bien mérité, mais moi, ouais, je ne suis pas parfait. Mon chien tout à l'heure que j'ai fauché. Il était pas moi, je l'ai volé, mais c'est pas grave, hein, chien. Et puis Simon, il commence à se dire, puis quand on lui dit, mais c'est pas Barabbas, c'est Jésus. Jésus? Alors lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien mérité. On n'a entendu que du bien de lui. C'est Jésus. Oh. Et puis il avance comme ça, puis Simon se dit, mais alors si Jésus qui n'a rien fait, on le met à la croix, moi, avec ma femme, hein, j'ai pas été tendre, hein. Et puis mes voisins, et puis ceci, puis mes affaires, et petit à petit, il se sent tout gris, tout moche, tout pêcheur. Il se dit, j'ai fait plein d'histoires. C'est moi qui me... Oh, mais au fond, s'il me l'a laissé à moi, la croix, et s'il me crucifiait, moi, puisque lui a rien fait. Et ils avancent encore, comme ça. Et le Jésus qui l'a fait, il peut plus avancer encore, merci. Attends, je crois que je viens tout seul, là. Il peut plus avancer, il tombe à genoux. Et puis il avance sur les genoux. Et puis, Simon, le paysan qui lui porte la croix, elle est lourde cette croix. Il peut plus la porter, il tombe aussi à genoux. Ah. Là. Et puis ils avancent, l'un à côté de l'autre. Il y a Jésus là, ensanglanté, et prêt de mourir avant même d'aller à la croix. Et puis il y a Simon sous cette lourde croix. Et ils avancent comme ça, à genoux. Il reste 5 mètres jusqu'au sommet de Golgotha. Et puis Simon se tourne vers Jésus, puis dit, « Alors, pourquoi ?» Jésus se tourne vers lui. Il le regarde comme ça. Il a la couronne d'épines sur le front. Il lui dit, « Pour toi. Pourquoi ? Pour toi. » Et puis ils avancent. Et puis ils se parlent, ils se disent des choses. Simon comprend. Puis Jésus dit, je t'aime. Simon, je t'aime. Il fallait que je te rencontre. J'aimerais bien t'avoir tout le temps avec moi. J'aimerais bien te donner la vie. Parce que moi, je donne la vie à ceux qui ont confiance en moi. Et Simon, petit à petit, il découvre qu'il est là à côté du Fils de Dieu. Et que cet arrêt sur la route par les Romains, c'est la chance de sa vie. Si Romain l'avait pas attrapé, il n'aurait pas rencontré Jésus, jamais. Hein? Il a vécu une grande souffrance sous cette croix, et puis ça va lui donner une grande espérance. Ça va le sauver. Et ils arrivent au sommet. Et le soldat romain revient vers Simon. C'est bon, fous le camp. On le décharge de la croix. Puis la croix, on la dresse. Puis une dernière fois, Simon regarde vers Jésus, il est épouvanté. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, pourquoi? Et Jésus répond, pourquoi? Et Simon, qui voit bien ce qui va se passer, on va le crucifier. Il recule. Il se tient un peu plus loin. Et on prend Jésus. On le met sur la croix. Et puis on entend ça. Jésus qui l'a sur la croix lui avait dit, je t'aime, je te veux toujours avec moi, je te retrouverai. Il lui a dit ça un matin. Je reviendrai, je te donnerai l'esprit, la vie qui est en moi, dit Jésus, je vais te la communiquer. Alors Simon, il ne sait pas s'il doit se réjouir ou être encore épouvanté. Quand il regarde Jésus, il dit, lui qui n'a rien fait, il porte mes péchés sur la croix. Puis moi qui péchais, je ne porte plus rien. Parce qu'ils sont plus sur moi, ils sont sur lui. Alors ça le libère, il est content, il est joyeux, puis en même temps extrêmement triste de ce qu'il se voit. Et il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui. Il y a quelque chose qui s'est passé, il est bien, il est plus léger. Il a presque envie de faire du rap. Quand il rentre à la maison, raconter ça à sa femme. Et je pense même qu'il en a parlé à ses enfants. Bien sûr, s'il a des enfants. Il a dû leur raconter ça exactement. J'espère que vos parents vous leur raconter ça, vous ont fait comprendre ça. C'est important. Simon, il est sauvé. C'est un nouvel homme, il est né de nouveau. Il a la vie de Dieu en lui. Pour toujours, même après sa propre mort, il va vivre. C'est la nouvelle la plus extraordinaire. Moi, un vieux de 84 ans, il me reste combien de temps à vivre, à ton avis? Je vais vivre combien de temps encore? Comme ça, à voir. Tu sais, je suis pas mal courbaturé. J'ai récemment levé des pierres de 140 kilos tout seul dans ma voiture. Il me reste 9 ans. C'est pas mal. Ben oui. Je vais mourir à l'âge de mon père. Mon père, c'est 93. Il a lâché son clos à 93 ans. 9 ans. Dans 9 ans, ça m'embêtera quand de vous quitter, et mes enfants. Vous savez, moi j'ai 12 petits-enfants, 13 à la douzaine. Le 13e n'est pas né, mais il arrive. Alors, il faudra les laisser. Mais j'ai la vie en moi, parce que j'ai collé à Jésus, j'ai marché avec lui, il a marché avec moi, il m'a appelé, j'ai répondu, j'ai habité par la vie. Alors si dans 9 ans ou à 20, ce soir, peut-être. Je ne suis plus là. Tu t'appelles comment? Nathan. Tu es prophète. Nathan, tu diras pas ce pauvre Paul Dubuis, ce vieux qui était venu nous raconter quelque chose. Tu diras, il est entré dans la présence du Seigneur. On va pas pleurer, On va applaudir. Oui, t'applaudir, j'espère. Alors, ce que je disais, je finis avec ça, ça va? Je finis avec ça. Il rentre à la maison et il appelle sa femme. Elle s'appelle comment, sa femme? Comment tu t'appelles? Pauline. Pauline. Paulette. Paulette, ah oui. Ah, s'il n'avait pas répondu, c'était toi que j'utilisais pour me porter le micro. Hop. C'est un honneur, Pauline! J'arrive. Et Pauline descend les escaliers, était sur la terrasse. Et puis il appelle, j'invente, mais là j'invente pas, il appelle ses enfants, qui s'appellent comment? Madame Paulet, les enfants de Simon. Oh, encore. Là j'en parle au pasteur, finalement. Alexandre! Son fils, son premier. L'autre qui s'appelle? Non. Je suis au chômage depuis le mois de juin, mais je veux volontiers m'engager quelqu'un chez vous. Non. Rufus. Alexandre, Rufus. Les gamins, quoi? Faut que je vous raconte, asseyez-vous, posez vos jeux vidéo, puis vous m'écoutez. puis il leur raconte ce qui est arrivé. J'étais petit gamin comme ça. Est-ce que ça suffit de raconter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible me laisse entendre que ces enfants ont bien écouté, que ça les a marqués, et que beaucoup plus tard, l'apôtre Paul en parle. Alors je vais finir maintenant. Où est ma Bible? Elle est là. Il faut quand même vous dire où j'ai été chercher cette histoire extraordinaire. On trouve cette histoire de un verset dans les trois évangiles. Je ne sais pas si vous l'avez sauté. Bon, ben là, tiens-moi. Je te tiens une croix. Tiens. Lis.
Voilà, tu lis là. Là. Ouais. Ils forceront.
Forcèrent.
À porter. La croix de Jésus en passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus.
Et puis, on nous reparle de l'un d'entre eux, pardon, voilà. Paul. Ouais, pause. Paul écrit aux Romains, beaucoup plus tard, puis 20 ans plus tard, je sais pas, et puis il adresse des salutations, et il dit, verset 13, à gauche, hein?
Là. Saluez Rufus, d'élu dans le Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne.
Voilà. Saluez Rufus! Saluez Nathan! Dans 20 ans, j'espère que tu seras dans une église, tu auras entendu la bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin, c'est que tes péchés sont passés sur Jésus et que la vie de Jésus par Saint-Esprit est venu en toi, et que tu seras chrétien engagé, joyeux, fort. Hein? Et puis quand j'écrirai à l'église de Mérin ou d'ailleurs, je ne sais pas si tu seras là, je dirai « Saluez Gap !» Non, pas Gap, saluez... « Saluez Nathan hein? !»« Saluez Nathan !» Sa mère aussi. On parle plus de Simon, d'Alexandre, Simon... Simon, peut-être, il a beaucoup travaillé, comme moi, et il s'est fatigué, puis peut-être qu'il est déjà auprès du Seigneur, on ne sait pas. Hein? Mais Rufus, c'est incroyable. Voilà, mon histoire est terminée, et je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir été... merci. Je prie avec vous. Seigneur, derrière l'histoire, derrière ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui est de notre humanité, nous demandons que la réalité des choses invisibles, du monde invisible qui s'est approché de nous ce matin, nous touche, nous pénètre, nous change. Et nous annonçons ici, ce matin, à tout pécheur, sous sa culpabilité, sous son remords, son regret, qu'il y a un lieu, il y a un endroit, et un seul, pour déposer le péché. C'est à la croix de Jésus. Et si vous le croyez, et si vous reconnaissez que c'est un mal, c'est un péché, c'est une faute, c'est une erreur, c'est un excès, un manque que vous regrettez. Alors maintenant, en vous-même, dites, Seigneur Jésus, tu es venu pour mourir et pour porter le châtiment de mes fautes. Je les dépose en toi, je m'en débarrasse, je demande pardon, je me retourne et je repars dans la foi en toi, Jésus, en ton amour pour moi, et libéré, joyeux. Au nom de Jésus, nous saisissons cette promesse par la foi. Et je bénis ses enfants, et je bénis Nathan. Tu es béni, Nathan, d'avoir entendu ce que tu as entendu ce matin, que le Saint-Esprit te fasse comprendre. Et chacun de ses enfants aussi. La visitation de Dieu dans votre cœur se passe en toi aussi. Et puis en toi. Vous êtes béni du Seigneur. Oui, avec ton beau sourire. Béni, toi aussi. Je vais te bénir aussi. Voilà. La bénédiction de Dieu te met au large, te réjouisse.